RFI et France 24 présentent. Radio Foot International, le café des sports.
Hugo Moissonnier.
Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le Café des Sports de Radio Foot International qui ouvre ses portes comme chaque vendredi, que vous soyez chez vous, que vous soyez au travail ou bien en vadrouille, que votre oreille soit collée à votre poste ou bien vos yeux rivés à vos écrans, que vous nous suiviez sur RFI, sur France 24 ou même sur Facebook. Eh bien vous êtes les bienvenus. La carte du jour, je vais vous la dévoiler dans un instant, mais d'abord je vous rassure, les habitués sont bien en place, même si la patronne n'est pas là. On embrasse bien sûr Annie Gasnier. Bonjour monsieur Rémy Ngono.
Bonjour, bien sûr mon cher Annie.
Bon, écoutez, moi je le prends comme un compliment.
Voilà.
Très honnêtement.
Donc à toutes les téléspectatrices qui sont bel et bien là, je suis avec vous aujourd'hui, surtout que après je pourrais aller au bal du samedi soir, c'est qui commence vendredi. Donc pour cela, eh bien, quel été beau.
Eh bien, donnez-nous l'adresse hein, de la salle de bal. On ira vous admirer danser. On passera la vidéo vendredi prochain. Bonjour Xavier Barré.
Bonjour Hugo, bonjour à tous. Et bien sûr, bonjour à Annie qui savoure quelques jours de repos bien mérités.
Mais qui nous regarde, j'en suis sûr, ou qui nous regardera. Hein, la rediffusion sur RFI, elle l'écoutera et elle regardera la rediffusion sur France 24. Bonjour Frédéric Suto, réfé.
Bonjour Suto. Hugo, bonjour tout le monde. Bonjour aux auditeurs. Ils sont déjà là, la page Facebook. Nouroun Ponou, depuis le Bénin. Bonne émission, faites-nous vibrer, comme chaque vendredi, il nous dit.
À mon avis, vu la forme que tient déjà Rémy Ngono, c'est mission déjà accomplie. Mais on a une heure pour vous faire vibrer un tout petit peu moins. Au menu ce vendredi, la Coupe du Monde 2022. Dans un monde normal, on serait déjà en plein dedans. Seulement voilà, il faut encore patienter. La finale, ce sera dans 6 mois, jour pour jour, au presque, évidemment. Au Qatar, et selon les statistiques, je suis désolé de vous dire ça, aucune équipe africaine ne devrait fouler la pelouse du stade de Lusail le 18 décembre prochain. C'est Opta qui nous dit ça, un institut de référence. C'est pas exactement Paul le Poulpe, c'est du sérieux, mais les maths et le foot, ce sont deux choses souvent différentes. Au menu également du Café des Sports, le PSG, il fait chaud actuellement dans la ville lumière. Mais l'été de son club phare, lui, est plutôt tiède. Il avait démarré très fort avec évidemment la prolongation de Kylian Mbappé. Depuis, pas grand-chose. Un directeur sportif, certes, mais on attend de connaître ses projets en termes de transfert, en termes d'entraîneur également. La piste Zidane, elle semble complètement gelée. Aujourd'hui, le dossier Mané, lui, en revanche, est brûlant. Le dieu vivant des Sénégalais devrait rejoindre le grand Bayern de Munich, le Bayern qui serait tombé d'accord avec Liverpool. Et évidemment, ce serait pour nous, à RFI, le transfert de l'été vu d'ici les Moulineaux, où s'ouvrent les portes donc du Café des Sports de Radio Foot. Allez, certains nous disent qu'on fait dire ce qu'on veut aux chiffres, ce sont des romantiques. Et puis il y a les autres qui adorent les chiffres, qui en abusent même, nous dit-on. Par exemple, Rémy Ngono, Frédéric Suto, Opta a calculé les chances de victoire de chaque équipe africaine dans le Mondial 2022, qui aura donc lieu à partir de novembre au Qatar. Et selon les calculs d'Opta, donc institut de référence en la matière, l'Afrique n'a aucun espoir de soulever la Coupe du Monde pour la première fois. Aucun espoir, surtout pour le Cameroun. C'est un tout petit peu mieux à peine pour les autres équipes engagées.
Bah elle fait beaucoup parler, hein, forcément, cette étude qui est sortie cette semaine après la qualification de l'Australie et du Costa Rica, les deux derniers qualifiés pour le Mondial de novembre prochain. On a les 32 équipes, on les connaît. Donc Opta, vous l'avez dit, institut, agence de référence, hein, les sortes de matchs qui nous abreuvent de stades pour nous dire du pied droit, du pied gauche, de la tête, bon, etc. Là, ils ont pris les 32 qualifiés. Et qu'est-ce qu'ils nous disent? Ben, déjà, il faut descendre à la 23e place du classement, entre guillemets, pour trouver le Sénégal, qui aurait 0,19% de chance de remporter la Coupe du Monde. Et des cinq pays qualifiés pour l'Afrique, eh bien, c'est le Sénégal.
C'est le mieux parti.
Qui, avec ses 0,19% de chance, a le plus, malgré tout, d'espoir. On trouve derrière le Ghana, 0,02% de chance de soulever la Coupe du Monde. La Tunisie et le Maroc, 0,01. Et alors, pour le Cameroun, la référence, pourtant en Afrique, quart finaliste en 90, 0%. Donc on ne sait même pas pourquoi ils y vont, les Camerounais, hein, si on s'en tient à ce que dit Opta. Non, la Coupe du Monde, ce n'est pas possible. Ils ne peuvent pas la gagner.
Alors
c'est des chiffres, hein, on rigole.
On va revenir sur les inquiétudes légitimes, s'il y en a, que peuvent soulever ces chiffres, que peut soulever cette étude publiée par Opta. D'abord, parler justement du rapport statistique et football, le jeu, le terrain, puisque avant, je le disais, il y a une dizaine d'années, on avait Paul Le Poulpe, hein, qui pronostiquait les résultats sur la Coupe du Monde 2010 en Afrique du Sud. C'était absurde, c'était gentil. Là, on a un institut de référence qui utilise les mathématiques pour vous donner les chances des équipes. Est-ce que c'est pas un petit peu exagéré, Xavier Barry?
Pas complètement, parce que si on s'en réfère au travail qu'ils font toute l'année, notamment sur la Première Ligue, puisque c'est une boîte anglaise au départ, même s'ils ont un fil Twitter en France et dans tous les pays
dans
européens.
Dans plusieurs langues. Hein.
Ouais.
Mmh.
Et donc, ils font un gros travail statistique, effectivement. Et par exemple, sur le championnat d'Angleterre, ils ne se sont pas trompés cette saison. Ils ont dit que ce serait Manchester City.
Ils avaient prédit la victoire.
Oui, ils avaient prévu au regard. Alors, c'est pareil, ils font des statistiques en cours de saison qu'ils affinent et ils vous disent, voilà, ce sera Manchester City qui sera champion. Mais ce qui est vrai sur un championnat où tout le monde rencontre tout le monde sur une période de 10 mois, l'est beaucoup moins sur une Coupe du Monde qui s'apparente plus à une coupe avec les effets de surprise. Ça dure un mois. En plus, là, on sera dans un rythme tout à fait inédit puisque la Coupe du Monde aura lieu en pleine saison, donc il n'y aura pas cette période de préparation propre à la compétition comme il y a d'ordinaire. Donc il y a quand même beaucoup d'incertitudes qui font que les statistiques telles qu'elles sont mises en scène par Opta ont beaucoup de chances de ne pas s'appliquer, même si pour nous Français c'est aussi satisfaisant puisque c'est la France qui est en tête de ce classement avec 17,93% de chances de l'emporter.
Et en même temps, Emine Gonneau, si je veux faire le taquin par rapport aux gens d'Opta, le tenant du titre, statistiquement, ces derniers temps, il a plutôt tendance à prendre la porte dès le premier tour. Vous aimez beaucoup les statistiques, les chiffres, Rémy Ngono, vous en donnez souvent pour appuyer vos argumentaires. Est-ce que, selon vous, ce type d'étude a un sens?
Ça a un sens, parce qu'on regarde quand même ce qu'il y a sur le papier. Sauf que ce qu'il y a sur le papier, bien évidemment, il y a une différence entre les statistiques pour lesquelles je me base souvent, c'est-à-dire que voilà ce qui s'est passé, et la prophétie, voilà ce qui va se passer. Parce que s'il faut regarder la prophétie, Manchester City était gagnant de la Ligue des Champions et Real Madrid avait 0,2% de chances de remporter. Et en fin de compte, c'est le Real Madrid qui gagne quand même la Ligue
c'est
des Champions.
C'est presque autant que le Sénégal, voilà qui va donner des idées au lieu de la Terre en
gare. C'est le même ratio. Hein.
et je vais vous dire d'ailleurs que moi, je me souviens en 1982, lorsque le Cameroun allait à la Coupe du Monde, personne ne connaissait le Cameroun. Et d'ailleurs, le Cameroun était dans la même poule que l'Italie. L'Italie n'était même pas donnée comme en allant, par exemple, en huitième de finale. Mais sauf que dans la poule du Cameroun, eh bien, alors qu'on ne connaissait pratiquement pas un joueur célèbre et tout, le Cameroun avait réussi à faire match nul avec l'Italie, des dinosaures et tout ça. Et puis, le Cameroun a été éliminé avec 3 points. L'Italie s'est qualifiée avec 3 points et a soulevé le trophée alors qu'il n'était pas donné favori. Maintenant, lorsqu'on regarde en Afrique du Sud, en 2010, le Cameroun était donné parmi les favoris, pouvant même atteindre le dernier carré. Il s'est retrouvé que, justement, le Cameroun était la première équipe éliminée. Or, on avait des grandes stars et tout ça. Et après, on disait que la deuxième équipe qui avait les possibilités de pouvoir accéder au huitième, voire quart de finale, c'était le Nigeria. Le Nigeria, lui aussi, dernier de sa poule, était sorti. Et l'équipe qui avait presque 0,00%, c'est-à-dire que le Ghana, qui n'avait que Inkoum, alors que, par exemple, les Siens étaient déjà au banc, les Apia, ils étaient déjà
on
finis.
On n'a jamais été aussi proche d'une demi-finale africaine.
Justement. C'est pour ça que je vais dire par un proverbe qu'on ne construit pas des maisons avec des belles pétales de rose.
Il aime les chiffres et il aime évidemment les proverbes pour notre plus grand plaisir. Merci Rémy. Alors, puisque vous parlez du Cameroun, eh ben on va embrayé. Frédéric Suto nous a donc dit que, selon Opta, les Camerounais, les Lions Indomptables, n'avaient aucune chance, faisaient partie de ces équipes qui n'avaient aucune chance, zéro, de remporter la Coupe du Monde.
Les cinq nations. Tout, Hugo, y a l'Arabie Saoudite et le Costa Rica qui sont dans le même cas, hein, 0%. Oui. Voilà, avec le Cameroun.
Je suis pas sûr que ça flatte beaucoup nos auditeurs ou nos téléspectateurs camerounais. Les cinq nations africaines dans ce classement, elles sont clairement mises parmi les mauvais élèves. Hein. Vous l'avez dit, Frédéric Suto, est-ce que ça nous oblige, alors pas forcément ce classement, mais est-ce que c'est une photographie réelle, tout simplement, des rapports de force au niveau mondial, au niveau des équipes engagées sur cette Coupe du Monde? Est-ce qu'il faut être inquiet? On rappelle qu'en 2018, précédente édition, Xavier Barré, zéro pointé à l'issue du premier tour, les cinq équipes africaines éliminées dès la phase de poule.
Elles sont toutes éliminées dès la phase de poule, effectivement, avec le Sénégal qui est éliminé au fair play. C'est-à-dire au nombre de cartons jaunes derrière la Colombie, à égalité de points avec le Japon, mais battu donc au fair play par les Japonais, dans un groupe où la tête de série était la Pologne, qui finit dernière. Comme quoi, vous voyez, même si, entre guillemets, il y a une forme de logique qui est respectée, elle peut être aussi bouleversée par ailleurs. Non, mais ce qu'il faut retenir, je pense, c'est clairement le Sénégal et l'équipe africaine qui a les meilleures chances. Alors après, les pourcentages sont effectivement assez dérisoires, mais je pense que dans les calculs des ordinateurs d'Opta, alors je n'étais pas dans leurs ordinateurs, mais il y a un élément qui est important à prendre en considération, c'est évidemment les perspectives d'aller au bout, c'est-à-dire le tableau tel qu'il est conçu. Or, le Sénégal est tombé au tirage dans un groupe dont la tête de série, c'est le Qatar, avec comme équipe vedette donc, les Pays-Bas. Et il y aura également dans ce groupe donc le Qatar, les Pays-Bas et l'Équateur, qui est pas une grosse, qui est une bonne équipe sud-américaine, mais qui est pas une. Donc clairement, le Sénégal est l'équipe africaine qui a les meilleures chances de passer en huitième de finale. Alors après, il faut voir la suite du programme. S'ils sortent premiers de la poule, même si je pense que les Pays-Bas sont les favoris de ce groupe, eh bien ils rencontreront le deuxième du groupe B, et là ça pourrait être l'Iran, les États-Unis ou le Pays de Galles. Puisque le grand favori de ce groupe B, ce sera évidemment l'Angleterre. Donc, du coup, on peut dire que oui, le Sénégal peut aller jusqu'en quart de finale. Voilà. Donc, après les quarts de finale, ce sera très compliqué. Parce que si on regarde le plateau, on voit qu'il y a effectivement toutes les grandes équipes devraient être au rendez-vous, même si on n'est pas à l'abri d'un accident.
Mais est-ce que c'est qu'une histoire de tirage et d'adversaires avérés ou potentiels? Ou est-ce que, tout simplement, les équipes africaines, elles vont faire partie des équipes les plus faibles qu'on va voir dans cette prochaine Coupe du Monde? C'est un peu l'impression qui ressort de ce classement, Rémi.
Si les équipes africaines étaient aussi faibles que ça, je crois que le Cameroun ne battrait pas l'Argentine de Diego Maradona. Si les équipes africaines étaient aussi faibles que ça, je crois que le Sénégal ne battrait pas la France. Si les équipes africaines étaient aussi faibles que ça, l'Algérie ne battrait pas l'Allemagne. Le problème, c'est quoi? C'est que la FIFA s'est arrangée à donner des coefficients à l'emporte-pièce, je ne sais sur quelle base, de telle sorte que les équipes africaines se retrouvent pratiquement avec un coefficient qui est toujours inférieur et se retrouvent pratiquement dans ce qu'on appelle toujours les groupes de la mort. Regardez que chaque fois...
Bah là, ce n'est pas le cas du Sénégal, par exemple.
Mais je vais vous dire. Attendez,
ce n'est pas le cas du Sénégal.
Laisse-moi parler, monsieur.
Non, parce que là, tu dis une bêtise.
Voilà, monsieur, qui ne connaît pas la démocratie, qui ne connaît pas le temps de parole.
Je connais les systèmes de coefficients de la FIFA.
Avant, on lui redonne la parole.
Mais les systèmes de coefficients de la FIFA sont calculés sur les 4 dernières années. Donc, ce n'est pas la peine de remonter à 1982 ou à 1990.
Non, mais il nous parle des têtes de série, là.
Les têtes de série, c'est calculé sur les 4 dernières années.
En fonction de quoi?
Eh bien, en fonction des résultats, tout simplement.
Mais monsieur, vous calculez vos choses parce que la France joue contre les îles Fouéraouais. Égal plus 12. Vous jouez contre
Xavier. Mais
c'est pas possible.
Il y a un classement mondial FIFA qui fait foi, que les gens peuvent regarder sur Internet. Il est sur le
Monsieur, je vous donne.
Donc, ce n'est pas la peine de dire que l'Afrique est battue.
Et il faut laisser ça.
Alors, en remontant à des faits qui remontent à 1982 ou 1990.
On a compris. Donc,
depuis 4 ans, eh bien, le classement mondial s'établit sur un certain nombre de critères objectifs et on ne peut pas le nier, ces classements-là.
Xavier rejette vos accusations, en tout cas vos remarques, mais est-ce qu'au-delà du traitement qui serait réservé à l'Afrique, tout simplement, vous pensez qu'on les sous-estime pour cette prochaine Coupe du Monde, les équipes africaines?
Mais c'est ce que je suis en train de dire. Regardez la dernière Coupe du Monde. Nous sommes devant une équipe comme le Portugal, qui rencontre le Maroc. Mais lorsque vous regardez ces matchs-là, le Maroc va tirer 14 fois. Le Maroc aura une possession de 63% alors que le Portugal avait d'excellents joueurs. Je vous fais comprendre que lorsque vous regardez le match, justement en quart de finale, comme celui de, comme j'ai dit, le Ghana contre l'Uruguay, mais si justement à la dernière minute, Gian Assomoy ne rate pas le pénalty, eh bien, on passe non, mais, immédiatement.
Alors, ce qui est vrai, c'est lorsque que les trois quarts de finale,
retrouve l'Angleterre, parle de la prochaine
alors,
Coupe
attendez,
du Monde.
Mais, attendez.
Je fais un guide sur la Coupe du Monde, donc on peut remonter jusqu'à 1930, je le connais par cœur, l'histoire, Rémi Ngono.
Moi, je connais par cœur. Monsieur, je connais par cœur.
Xavier Rémy, c'est pas la peine de revenir à 1930.
L'alerte, vous avez outrepassé vos temps de parole, vous n'allez plus parler dans cette émission dorénavant. Il n'y a que Frédéric Suto qui aura le droit de parler, de donner son avis, mais également de relayer les avis et les observations des auditeurs sur les réseaux sociaux.
Il y en a beaucoup. Non, je voulais préciser avant ça, les trois quarts de finale des équipes africaines, effectivement, ça s'est joué au tir au but ou en prolongation. Hein, le Cameroun 90, le Sénégal 2002 et le Ghana, effectivement, en 2010. Mais oui, cette étude d'Opta, bien, ils sont vent debout, là, les auditeurs, les téléspectateurs. Africain, le football, c'est pas des mathématiques, nous dit Robson Dessouza. Abdelaziz Ebombi, lui, il est à Bobo Dioulasso. Laissez cette structure dire n'importe quoi, vous verrez bien, rendez-vous en novembre. Et ça continue comme ça. Papa Nfali Diata, il est à Dakar. Le Sénégal, champion du monde. Et puis Amadou Kindi, encore, il nous dit la finale sera 100% africaine.
Vous continuez à réagir, bien évidemment, sur Facebook. Frédéric Suto est là pour lire vos commentaires, l'étude. Et on va terminer là-dessus. Cette première partie, elle nous dit également, et on en parlait tout à l'heure, que les favoris pour la victoire finale au Qatar, selon les statistiques, les favoris pour remporter la Coupe du Monde 2022, eh bien, c'était les Français, avec leur maillot bleu, les Français favoris pour se succéder à eux-mêmes. Ce serait une première depuis 1962, le Brésil qui succède au Brésil.
C'est pas arrivé si souvent.
Dans l'histoire
hein.
de la Coupe du Monde, ça arrive deux fois.
Italie.
L'Italie des années 30, avant-guerre,
ça
donc,
remonte.
1934-1938, et le Brésil de Pelé, soit 58-62, d'ailleurs sans Pelé en 62 parce qu'il était blessé. Et d'ailleurs, j'y consacre un long chapitre dans mon guide de la Coupe du Monde à paraître à la rentrée, parce qu'effectivement, il y a eu deux tactiques, deux stratégies totalement différentes de la part du sélectionneur en place. Pozzo, l'Italien, lui, a changé presque toute l'équipe entre 1934 et 1938, alors que côté brésilien, on a gardé les mêmes, sauf Pelé blessé. Sinon, c'était le même 11 de départ.
Un
défenseur central.
Vous l'avez vraiment écrit vous-même. Hein,
j'ai bien potassé. J'ai posé la question aussi à Didier Deschamps en conférence de presse l'autre fois, parce que si on regarde ce qui s'est passé sur les dernières Coupes du Monde, donc, le champion du monde en titre européen a été éliminé à chaque fois au premier tour.
Depuis 2006,
oui. La France dès 2002, l'Italie en 2010, l'Espagne en 2014 et l'Allemagne en 2018.
Il n'y a qu'en 2006 que le champion du monde 2002, le Brésil en l'occurrence, ne sort qu'en quart de finale.
Donc quand les derniers champions du monde européens ont tous été éliminés au premier tour. Et quand j'ai posé la question à Didier Deschamps, entre ceux qui avaient largement renouvelé leurs équipes comme Joachim Löw et ceux qui l'avaient très peu fait comme par exemple l'Espagnol Del Bosque qui avait gardé 14 ou 15
ou
joueurs, la France de 2002, ils ont quand même été éliminés. Donc on voit bien que c'est un vrai souci pour Didier Deschamps de savoir comment garder un équilibre pour l'expérience et renouveler suffisamment l'équipe pour qu'il y ait une dynamique.
On n'a pas besoin de statistiques, en gros. Hein, si vous nous regardez ou nous écoutez, vous comprenez, il y a Xavier Barret qui, globalement, a toutes les infos dont vous avez besoin, Frédéric
Suto. Le Brésil qui gagne donc sans Pelé en 62, ça veut dire qu'il faut laisser Mbappé à la maison pour gagner en 2022
C'est peut-être ça la technique. Rémy Ngono, les Bleus, on va la rappeler, hein, par souci d'objectivité, ce sont plantés, on va le dire comme ça, à l'Euro. Ils ont remporté la Ligue des Nations. Et puis là, ils viennent de vivre un mois de juin absolument catastrophique sur le plan des résultats. Bon, il y a des faits extrasportifs qui peut-être expliquent ces résultats. Mais est-ce que vous voyez vraiment les Bleus se succéder à eux-mêmes? Vous me répondez rapidement à cette question très large. Et est-ce que ça accrédite votre thèse que ces statistiques optables, bon, il ne faut pas forcément les prendre au sérieux?
Xavier Barret, tout de suite, voulait me justifier les statistiques opta avec les classements FIFA. Les Bleus ne sont pas premiers au classement.
C'est pas ce qu'il a dit. Ils prennent en compte
pourquoi
aussi.
Pourquoi tu ne prends pas souvent Xavier au mot? Mais c'est pas possible.
On se tutoie maintenant.
Je dis ceci. Et bien évidemment, si vous êtes trois, ça ne me gêne pas. Bon, là, l'Africain est là pour vous combattre et vous abattre. Voilà. Je dis ceci, mon cher. C'est que S'il faut regarder sur le plan des statistiques et s'il faut regarder la structure d'une équipe, le Brésil est mieux placé parce que le Brésil est presque imbattable sur une longue série. Les Bleus que nous voyons actuellement, nous savons que lorsqu'ils remportent la finale, enfin, la Coupe du Monde, c'est une équipe de France qui est d'abord défensive et qui procède par les contre-attaques. Or, aujourd'hui, elle est friable défensivement, de telle sorte qu'on a pu constater que même des choses qui n'arrivaient pas comme la Croatie réussissent dans son histoire à gagner contre l'équipe de France. Maintenant, l'équipe de France est tournée vers l'offensive, alors que Didier Deschamps, que ce soit avec Marseille ou même avec l'équipe de France, il ne prenait jamais le jeu à son compte. Maintenant, cette équipe de France va se découvrir. Et à partir de cet instant, j'ai dit que au milieu du terrain, elle n'a pas toutes les capacités, toutes les aptitudes. Au niveau de la défense, elle est beaucoup friable. Et je crois que l'équipe qui est la mieux équilibrée pour l'instant, lorsqu'on regarde le front de l'attaque, le milieu du terrain et la défense, c'est le Brésil.
Alors vous comprenez donc Rémy Ngono, la finale ce sera Brésil-Cameroun avec Eto'o en tribune et puis Neymar sur le terrain. On va en rester là avec les statistiques d'Opta.
Hein.
Et on va. Et si c'était France-Brésil, pourquoi pas, mais ça ne plairait pas beaucoup à Rémy Ngono. Allez, on va justement parler un peu de France et de Brésil, hein, le club de Neymar et de Mbappé, le PSG. Après la Coupe du Monde au Qatar, le club du Qatar en France, le Paris Saint-Germain, après une saison qu'on peut légitimement qualifier de ratée, le club parisien devait faire en tout cas sa révolution cet été, en tout cas entre les deux saisons, à l'intersaison. La prolongation de Mbappé, le départ de Leonardo, la nomination d'un nouveau directeur sportif à la place de Leonardo, Luis Campos, tout ça, ça partait plutôt bien. Mais depuis, on a l'impression, Frédéric Suto, que ça se calme, notamment pour ce qui est du poste d'entraîneur. Il me semble qu'ici même, il y a une semaine, on attendait tous la nomination de Zinedine Zidane. Et là, ça risque d'être plutôt Christophe Galtier.
Peut-être Christophe Galtier, à moins que durant tout l'été, tous les vendredis, on vous sorte un nouveau nom comme ça. Je sais pas, Jocelyn Gourvennec, là, il vient de se séparer de Lille. Paul Le Guen, qui était au Havre.
Il a déjà donné au PSG.
Il a déjà donné une autre trêve de plaisanterie. Effectivement, alors, Zinedine Zidane, ça ne veut pas dire que ça fait pchit, hein, mais c'est vrai qu'il était annoncé du côté de Doha pour négocier. On n'a jamais vu l'avion atterrir. Christophe Galtier, oui, il y a des contacts qui ont été pris par les dirigeants du Paris Saint-Germain avec ceux de l'OGC Nice. Christophe Galtier est arrivé à Nice l'an passé, après trois très belles saisons à Lille. Hein, il a fini avec le titre de champion du côté de Lille, mais ça s'est un peu dégradé, l'ambiance à Nice, entre Galtier, le directeur du foot, Monsieur Fournier. Bon, et comme il s'entend bien avec Luis Campos, qui était à Lille, il n'y a pas si longtemps, avec Galtier, vous me suivez. On reconstitue peut-être ce duo d'enfer. En tout cas, c'est ce qui se tramerait en coulisses. Mais il l'a répété ces derniers jours, Luis Campos, il veut faire les choses dans l'ordre. Et dans un premier temps, il faut trouver une porte de sortie pour Mauricio Pochettino et son staff.
Qui était l'entraîneur du PSG.
Qui est toujours l'entraîneur du PSG.
Xavier Barré, quand vous entendez Frédéric Suto, vous avez l'impression que les choses sont maîtrisées du côté de Paris. On fait les choses pas à pas avec Luis Campos à la manœuvre. Ou bien, est-ce que vous avez l'impression que sur le plan de l'entraîneur, la nomination de Galtier, elle révèle déjà peut-être un premier quoi, qu'on voulait Zidane, on a Galtier, on met du temps à l'avoir.
Non, c'est vrai qu'on s'est un peu tous emballés la semaine dernière sur Zizou, parce que forcément, il a une telle aura qu'on se réjouirait qu'il vienne au PSG, mais en même temps, lui, il n'a jamais communiqué sur le sujet, et même dans son entourage, jamais personne n'a rien dit. Donc, on sait qu'en plus, Zidane a la perspective très probable de pouvoir prendre l'équipe de France après la Coupe du Monde. Donc, pourquoi venir au PSG s'il peut prendre l'équipe de France, qui est sûrement moins risquée dans la mesure où eh bien, c'est un travail différent, celui de sélectionneur, et compte tenu de son aura, il aura plus de temps pour travailler. Donc, voilà, il y avait même eu la possibilité qui avait été évoquée que le Qatar le laisserait avoir la double casquette, être entraîneur du PSG et sélectionneur de l'équipe de France. On avait entendu ça, ce qui paraît quand même assez aberrant compte tenu des exigences aujourd'hui.
Un peu comme Florent Ibengué avec la RDC.
Voilà, qu'un entraîneur dans un grand club comme le PSG. Donc voilà, donc a priori Zidane au PSG, c'est pas pour maintenant ou pas pour tout de suite en tout cas. Galtier, c'est une bonne solution. Après, vous demandez est-ce que c'est dans l'ordre ? Bah oui, il faut savoir que Leonardo, qui se confie d'ailleurs dans l'équipe aujourd'hui, a été remercié dès le soir de la dernière journée de championnat. Moi, j'étais à la conférence de presse de Mauricio Pochettino. Il a dit bah, peut-être à l'année prochaine ou pas. Lui-même n'était pas encore fixé sur, ce délai, puisque dans le même temps, il y a Leonardo qui était remercié par Nasser Al-Khelaifi. Donc oui, les choses se font dans l'ordre. Je ne pense pas qu'on attende, comme l'évoque Fred Suto, encore 3 semaines ou 1 mois pour connaître le nouvel entraîneur, puisque l'entraînement va reprendre bientôt.
Alors ma question, ce n'est pas seulement ça. C'est est-ce que quand vous faites venir Galtier, vous n'êtes pas déjà en train de vous attirer quelques critiques, surtout quand on a pensé que Zinedine Zidane pourrait venir, Rémy Nguno. Est-ce que Christophe Galtier, ça va emballer les supporters du PSG?
Non, c'est totalement incompatible. C'est exactement comme si vous invitez le poisson d'aller habiter au soleil. Parce que, de par sa nature, Galtier est né à Marseille. Galtier a été vice-champion avec Marseille. Galtier a joué là-bas. Donc, il est complètement marseillais, alors qu'on parlait déjà même
ça
de la difficulté.
Ça remonte, quand il était joueur, il a été un peu entraîneur adjoint aussi, mais ce n'est pas...
Voilà, mais attends, y a pas j'ai Marseille dit qu'il est marseillais. Deuxième des choses, une équipe comme le PSG, c'est exactement aussi comme un berger qui devrait conduire, bien sûr, des grands moutons et tout, mais si les maigrelets, les moutons finiront par le projeter dans le ravin. Galtier, sur le plan de ce qu'on peut appeler les statistiques, la personnalité, il ne peut pas, avec des joueurs comme Messi, dans les vestiaires, les Neymar, avec toutes les stars, les Mbappé, qui a déjà pris beaucoup de galons et de melons, venir maintenant s'imposer parce qu'il va brandir sa petite carte de visite. Vous savez, j'ai entraîné là-bas, à tel ou tel endroit. On dit, c'était où? Et toi-même, tu as joué où? Tu as fait quoi? Et moi, je me dis aujourd'hui, ce serait difficile parce que le PSG, qui n'avait même pas encore de grandes capacités, j'ai vu Arthur Georges, qui a pu échouer parce qu'on disait que son jeu n'était pas alléchant. Or, quand vous regardez le système Galtier, c'est quoi? Avec, par exemple, Nice, il est au niveau de la défense, la meilleure défense avec le PSG. Mais au niveau de l'attaque, même Nantes, qui est 9e, a inscrit 55 buts, pendant que lui, il a inscrit 52 buts.
Et Nice donc, a terminé 6e.
Voilà, ce n'est donc pas un entraîneur qui prend des risques offensifs. Or, le PSG veut jouer un football léché. Et vous voyez, par exemple, si quelqu'un comme Blanc a échoué là-bas, si Comboiré a échoué là-bas, si tel autre, même Luis Fernandez, avant que ce ne soit le grand PSG qui avait de la personnalité, échoue là-bas, eh bien, on me dit maintenant, c'est Galtier, encore un autre Français. Eh bien, moi, je vais tout simplement lui dire de se rappeler ce proverbe africain qui dit « L'enfant qui s'est déjà brûlé la langue, n'oublie pas de souffler la soupe ».
Il faudrait qu'Opta, je lance un appel solennel, mesure le temps de parole de Rémy Nguno et statistiques de Rémy Nguno dans Radio Foot, le nombre de proverbes, vite. Bon, vous êtes non, d'accord avec ça? Parce qu'en même temps, il y a une forme aussi de cohérence. On voulait quelque chose de plus cohérent, sportif comme... et moins bling-bling.
Alors, je suis assez d'accord avec Rémy Nguno sur le jeu, sur le fond. Oui, c'est pas toujours qu'on est d'accord, mais là, c'est vrai.
Là, pas besoin d'Opta, ouais. C'est une première.
Galtier, c'est assez défensif.
Plutôt un entraîneur de contre. Alors, il fait très bien jouer ses équipes en s'appuyant sur des défenses extrêmement solides, avec des joueurs qui prennent les espaces, qui vont très vite vers l'avant. Il l'a très bien fait à l'époque à Saint-Etienne. Il l'a fait aussi à Lille, avec ce titre de champion. Il a moins bien fait à Nice, mais je pense qu'il y a eu effectivement une volonté de changer un peu la philosophie de jeu. En jouant, parce qu'en première partie de saison, il jouait plutôt avec seulement 3 attaquants. En deuxième partie de saison, plutôt avec 4 attaquants. Et c'est là où Nice a plongé, enfin en tout cas a été moins performant. Donc comment est-ce qu'il va pouvoir faire jouer un PSG plus offensif, même si le PSG a de la marge par rapport aux autres? C'est tout l'enjeu de cette nouvelle saison, si c'est lui qui est effectivement confirmé sur le banc du PSG. Moi, je suis très curieux de voir comment ça marche, parce que c'est quand même un entraîneur qui a effectivement fait du très bon travail, mais dans des clubs de second rang. Or là, il va se retrouver en pleine lumière, avec une pression médiatique quotidienne, avec
des joueurs de niveau international
comme il n'en a jamais eu jusqu'à présent. Donc, alors bien sûr, il n'est pas tout seul, il vient avec Luis Campos. Enfin, Luis Campos est déjà là comme conseiller du président du PSG, pas officiellement directeur sportif, avec probablement João Sacramento qui était adjoint à Lille, qui était parti bosser avec Mourinho et qui va revenir. Bref, donc, il va y avoir une équipe extrêmement cohérente pour la politique sportive du club, mais il y a quand même cette cette question. Est-ce que lui, Galtier, est capable de s'imposer dans un vestiaire où il y a Neymar, il y a Messi, Mbappé?
Hugo, ça, oui, les auditeurs, les téléspectateurs vont dans ce sens. Hein. José Quilonga qui nous dit Galtier est un très bon entraîneur de Ligue 1, pas de Ligue des Champions. Barak Rooney, moi je préfère Galtier à Zidane. Bon, lui, il a fait son choix, bon, plutôt Galtier. Et Sam a dit, le PSG ne doit pas changer d'entraîneur. Bon, là, je crois qu'il est trop tard. Monsieur Pochettino, il a déjà fait ses valises. Hein.
On parlait de Luis Campos, le nouveau directeur sportif, on va quand même l'appeler comme ça. Plus globalement, quelle direction sportive, hein, le directeur sportif c'est une chose, la direction sportive qu'il va mettre en place, elle nous intéresse. Antero Henrique, qui a été directeur sportif, est de retour aussi, mais il n'est pas exactement directeur sportif. Là, je ne sais pas si vous me suivez, c'est à moi maintenant de vous embrouiller. Luis Campos qui habite à Monaco, là où il était avant. Vous voyez, moi aussi, hein, je peux créer comme ça des jeux de pistes. Luis Campos qui travaille également pour le Celta Vigo. C'est un peu surprenant, ouais. Tout ça.
En fait, il avait, même quand il était à Lille, il était avec une structure indépendante, dans un rôle de conseiller.
Pas vraiment salarié de Lille,
ouais,
il était un peu électron libre. Hein.
Exactement, donc c'est un personnage qui a en revanche un œil et un réseau de détection exceptionnel. D'ailleurs, le Real Madrid voulait le prendre. Et le PSG l'a pris avant le Real. Et on dit d'ailleurs que ça a été un élément important dans la négociation avec Kylian Mbappé. Si finalement Mbappé, qui avait une grande confiance en Luis Campos parce qu'il le connaît de l'époque Monaco, est resté au PSG plutôt que d'aller au Real Madrid. Donc c'est un personnage qui...
Non, ce n'est plus Macron.
Disons que ça a été un élément parmi d'autres. Donc c'est un élément parmi d'autres. Donc après.
Mais pour quelle direction sportive? Et puis Antero Henrique, donc va l'assister pour vendre des joueurs qui sont difficilement vendables parce qu'il.
Oui. Parce qu'il faut dégraisser des gros salaires. Avant d'acheter de nouvelles.
Est-ce que à quoi faut-il s'attendre? Est-ce que ça met pas un peu de temps à se mettre en marche ça?
Oui, il y a quelques. Bah, moi, je trouve quand même que quand vous changez tout comme ça. Ça prend forme assez vite. Vous virez l'entraîneur, vous virez le directeur sportif qui était là depuis 3 ans, vous virez... probablement...
Vous prolongez la grande star.
Voilà, vous prolongez la star. Enfin, il y a quand même un énorme chantier au PSG cet été.
Vous êtes d'accord là, vous laissez Rémi répondre. Parce que là, vous êtes plutôt dans le positif. Et je suis certain... Il va allumer.
Il sera pas d'accord avec moi.
Il va allumer à peu près tout l'organigramme du Paris Saint-Germain. Vous êtes satisfait de la direction que prend le sportif au PSG?
Le PSG, c'est une pieuvre multitentaculaire. Donc finalement,
ça démarre assez mal en termes de compliments.
Oui, mais attendez, il n'y a pas de direction parce que généralement, on attend même que tout vienne du Qatar. Puisque même les négociations, on nous dit que c'est le Qatar qui va décider ceci et cela. Et finalement, ceux qui sont là sont à peu près comme des wagons qui attendent que ceux qui ne connaissent rien du football puissent donner la direction. Donc aujourd'hui, quand on essaie de regarder même l'interview de celui qui a été chassé comme directeur sportif,
Leonardo.
Et qu'on nous présentait quand même comme ayant un grand réseau, mais on se serait attendu que la priorité des priorités soit d'abord le directeur sportif. Alors, qui choisissent immédiatement l'entraîneur. Mais on nous dit que c'est un conseiller. Mais finalement, quelle est la hiérarchie? Comment est-ce que ça va se passer? Est-ce que ce conseiller sera le patron du directeur sportif? Est-ce que c'est le président qui va encore avoir à choisir et les joueurs? Et c'est pour ça que moi, je dis qu'il y a une certaine confusion dans ce que je n'ai pas appelé un amateurisme lourdeau d'un PSG qui va vraiment...
Le patron au PSG, c'est l'émir, tout le monde le sait. Et son homme de confiance, son bras droit en qui il a une confiance absolue, c'est Nasser Al-Khelaifi.
Oui, pour beaucoup, c'est un fait, mais c'est aussi un problème.
Ensuite, après, vous choisissez effectivement un homme de terrain. Il s'était appuyé pendant un temps sur Leonardo. Mais quand Leonardo est arrivé, il ne faut pas oublier qu'auparavant, ils avaient choisi Tourelle, donc ça a fait des étincelles. On a laissé Leonardo. Là, ça n'a pas marché, donc on change. Mais le patron, on sait très bien, c'est l'émir. Tamim et Nasser, voilà. Et ensuite, ils choisissent un homme de terrain. Et
là, tu as dit le patron, il fallait dire les patrons.
Non, le patron, c'est l'émir. Et son bras droit, son homme de confiance, c'est Nasser. Et après, là, ils ont choisi une autre politique. Plutôt que de mettre tout le pouvoir sur Leonardo, ils ont choisi, visiblement, de s'appuyer sur une structure qui a déjà fonctionné avec Galtier, avec Campos, avec leur réseau. On va voir, ça peut fonctionner, mais... c'est quand même beaucoup d'interrogations aussi.
Les patrons au PSG, puis les patrons au service des sports, hein, l'un d'eux se nomme Frédéric Suto. mais vous obéissez surtout aux auditeurs, j'en suis certain.
Et au service des auditeurs. Non, avec Atsou Achille qui est assez d'accord avec vous, hein, Xavier. Le vrai directeur sportif, c'est Nasser. Les autres ne sont là que pour jouer les fusibles. Amassi Sissoko qui nous dit, lui, il faut un entraîneur qui osera changer des joueurs comme Neymar, Messi, voire Mbappé. Est-ce que Christophe Galtier sera capable de faire sortir un Neymar, un Messi le jour où ils ne mettront pas un pied devant l'autre?
On sera fixé très vite, hein, en début de saison. On verra comment ils gèrent justement le temps de jeu de ces joueurs-là.
Alors moi, je ne suis pas Opta et je ne suis pas Paul Le Poulpe, mais je vois un petit peu l'avenir. Je sais qu'on en parlera régulièrement du PSG la saison prochaine dans Radio Foot.
Hallo Sadio Mané, willkommen, wie geht's Sadio?
Le défi pour Sadio Mané, apprendre à parler allemand mieux que Simon Bourtembourg, qui m'a aidé à préparer cette émission et dont vous venez d'entendre la voix dans la langue de Goethe. C'est l'une des informations de la journée en négociation depuis pas mal de jours. Le Bayern Munich et Liverpool se seraient mis d'accord pour le transfert du Sénégalais, le héros sénégalais Sadio Mané, qui quitterait donc le maillot rouge de Liverpool pour le maillot rouge du Bayern. C'est ce qui s'appelle avoir le choix. Avoir
le choix du roi,
exactement, entre deux clubs incroyables. Hein, 6 Ligue des Champions d'un côté, 6 de l'autre. Voilà, ça vous pose des écuries. Alors, selon Sky Sports, moyennant 50 millions d'euros, le Bayern pourra donc s'attacher les services du Sénégalais. Il va changer de pays, pas vraiment de couleur de maillot. Le risque, c'est de changer de dimension, mais dans le mauvais sens, peut-être. Il a été tellement fort à Liverpool. Ça ne vous fait pas un petit pincement de le voir, alors certes, rejoindre un autre immense club, Rémi, mais c'est un petit risque peut-être pour Sadio Mané. On ne change pas comme ça de club, d'un club dans lequel on a brillé. On ne le quitte pas comme ça.
Je crois que dans la vie, il faut apprendre parfois à changer de costume. Et c'est par là, d'ailleurs, l'homme se découvre quand il se mesure à l'obstacle. C'est Saint-Exupéry. Sadio Mané a prouvé, que ce soit à Southampton, qu'il pouvait aller à un niveau supérieur. Il est arrivé maintenant au niveau de Liverpool. Et on a constaté qu'il a occupé pratiquement tous les postes. Et on devrait quand même dire que c'est l'un des rares joueurs, que ce soit à Southampton ou encore même à Liverpool, à marquer des buts sans pénalty. Il quitte la Première Ligue sans inscrire un pénalty. C'est donc quelqu'un qui n'a jamais eu un problème d'ego parce qu'il est humble. Il s'adapte à tout. La preuve, c'est qu'il a fini par jouer avant-centre. C'est un leader. Et aujourd'hui, je crois que quand on regarde une équipe comme le Bayern, même lorsque Choupo-Moting est arrivé là-bas, ils savent mettre des joueurs en valeur. Ils savent faire de telle sorte que les gens puissent renaître. Le Bayern, c'est une grande histoire. Ce n'est pas un petit club d'Europe. Quand Messi vient au PSG, quelle est l'histoire du PSG par rapport au Bayern? Quand Neymar vient au PSG, quelle est son histoire? Mais quand vous regardez le Bayern, c'est une grande histoire. Vous avez là non seulement le pays où le football souvent a été total, parce que lorsqu'on parle même du championnat de nations du football, vous n'allez pas parler de l'Angleterre. Ce n'est pas parce que le championnat est quelque part là-bas et tout. Mais même quand on regarde les Ligues des Champions, le Bayern Munich a beaucoup gagné également et le Bayern Munich se recompose. Et maintenant, s'il faut que Sadio Mané devienne le pilier, je vais dire bravo Sadio Mané, parce qu'il était devenu presque relégué au rang des ramasseurs de balles, mal aimé, souvent remplacé, sortant de tête basse.
Soyez un joueur de collectif aussi, on fait tourner un peu la parole.
Je ne vais pas répéter ce qu'a dit Rémi Ngono.
Non mais bon, ce qui est intéressant, c'est que je lui demande s'il est ému de voir Sadio Mané quitter son Liverpool, et finalement il me répond, Rémi Ngono, qu'il rejoint un club tout aussi immense. On avait un peu des frissons en entendant sa définition du Bayern Munich.
Sadio Mané, très grand joueur, le Bayern de Munich, très grand club, donc il n'y a pas vraiment un déclassement. Il y a éventuellement un
risque, un championnat, de ne pas s'adapter. tout simplement.
Non, mais c'est là, justement, si on regarde l'effectif du Bayern, on se rend compte qu'il ne peut pas ne pas s'adapter. Parce qu'il y a plein de joueurs francophones et il y a aussi des joueurs avec des racines africaines. On a parlé de Choupo-Moting. Choupo-Moting, on sait que c'est justement un garçon de vestiaire sur lequel il va pouvoir s'appuyer pour rapidement s'intégrer dans ce groupe.
On rappelle aussi qu'il est passé par Salzbourg, donc il connaît aussi cette région d'Europe. Bon, c'est en Autriche,
ouais,
Salzbourg.
C'est juste un peu plus loin, oui. Donc il y a Kingsley Coman, Benjamin Pavard, Dayot Upamecano, Lucas Hernandez. Il y a aussi son compatriote Bounassar. Donc voilà, il ne sera pas du tout perdu dans ce vestiaire du Bayern. Au contraire, et je pense même qu'il va être très attendu, surtout si Lewandowski s'en va. Il va falloir une nouvelle pointe dans cette équipe pour prendre le relais. Donc il va pouvoir s'intégrer, je pense, très facilement, très rapidement. Il va pouvoir mettre toutes ses qualités en œuvre dans un championnat où souvent les défenses sont un peu plus ouvertes qu'en Angleterre. Donc il va pouvoir faire valoir son efficacité, son sens du but. Et il aura peut-être ce rôle de numéro 1 qui s'est refusé à lui à Liverpool à cause de Mo Salah. Donc on verra, mais moi je trouve que c'est un très bon choix qu'il fait. Il a 30 ans là, ça fait 6 ans qu'il était à Liverpool. Je crois qu'il il doit signer 3 ans au Bayern.
C'est 3 ans, exactement.
Voilà, donc ça lui laisse 3 belles années devant lui. Et je suis très, très curieux de voir comment ça va se passer, comment le Bayern va renaître avec lui, surtout si Lewandowski s'en va.
Frédéric Suto, je sais que les auditeurs aiment parler de Sadio Mané. On va s'en apercevoir dans quelques instants via les cartons. D'abord, avant les vidéos, les textes, les messages sur Facebook concernant le Lion de la Teranga.
Il déroule le tapis rouge de Liverpool au Bayern. Bienvenue à Munich, nous dit Mamadou Sow. Très bon choix pour l'enfant de Bambali. Là, c'est Joe Karim Fall qui s'exprime. Eliman Diouf, il nous dit au Bayern, Sadio aura le respect qu'il mérite, parce qu'il y a quand même dans tous vos messages ce sentiment qui revient, hein, qui n'a pas été complètement respecté à Liverpool, en tout cas sur cette dernière année, par rapport à tout ce qu'il a pu apporter. Un message encore, Nicolas Epolo, lui, il est à Kinshasa. J'aurais souhaité toutefois voir Sadio aux côtés de Messi et de Mbappé.
Chose promise, chose vue. Sadio Mané à l'honneur également dans les cartons vidéo de nos auditeurs via WhatsApp.
Carton jaune,
un carton là. Qui sort un carton jaune.
Ouh là 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 là, carton rouge.
Carton rouge
dans la confusion.
Carton vert.
Extraordinaire.
Rien à dire.
Les cartons de nos auditeurs, ils peuvent être rouges, jaunes, mais ils sont pratiquement toujours verts quand il s'agit de Sadio Mané.
Salut Radio Foot International, salut Rémi Ngono, c'est Guess Oswald. Depuis Brazzaville, le plus précisément Mayanga Lac Bleu, je donne mon carton vert à Aurélien Tchouaméni qui a décidé de signer pour le Real de Madrid. Malgré les contre-appels de Kylian Mbappé, il a fait le bon choix de rejoindre le plus grand club du monde car les meilleurs joueurs ont joué dans ce club. Il est temps pour lui de laisser ses empreintes et de marquer son histoire dans ce club. Carton vert Aurélien, le meilleur reste à venir.
Bonjour Radio Foot International, je suis honoré d'être Togolais vivant en Italie. Je donne un carton rouge aux dirigeants de Bordeaux qui ont fait couler le club, qui ont mis le club dans une situation catastrophique. À cause de leur mauvaise gestion, les Girondins de Bordeaux risquent d'être relégués en national. Carton rouge aux dirigeants de Bordeaux.
Bonjour à la team Radio Foot International, c'est Abdoulaye Diam depuis Dakar au Sénégal. Je donne un carton vert à l'un des plus grands joueurs du monde, l'actuel meilleur joueur africain. Je vais nommer M. Sadio Mané, notre fierté nationale. Malgré le succès qu'il connaît dans le monde du football, il n'a jamais oublié de là où tout a commencé. Il a organisé un match de gala avec ses amis d'enfance et certains anciens internationaux sénégalais. Et la fête a été belle, franchement. Chapeau Sadio.
Bonjour le Café des Sports. Je suis Mamadou Diallo depuis qu'on a écrit. Carton rouge à l'équipe de France pour sa piètre prestation en Ligue des Nations. Ceci n'est pas digne du tenant du titre de la compétition. Et de surcroît, le champion du monde en titre. Il faut que Deschamps revienne à ses fondamentaux. Merci beaucoup.
Bonjour Radio Footman, c'est Benjamin Baoulé depuis Kara au Togo. Mon carton est de couleur verte à la Croatie. Et surtout aux trois milieux, Kovacic, Brozovic et Modric, qui ont surclassé la France. Et surtout les trois milieux défensifs de Didier Deschamps. Merci.
Bonjour Radio Foot International, moi c'est Louis Dorsuma depuis le Tchad. Cette semaine, j'attribue un carton rouge à l'UEFA d'avoir programmé des matchs de Ligue des Nations à la fin de la saison. C'était vraiment épuisant. À un moment donné, il faut laisser les joueurs se reposer. Et on l'a senti dans les grands matchs des grandes nations, notamment la France et l'Angleterre. Carton rouge à l'UEFA.
Radio Foot International, bonjour, c'est moi Amadou depuis les États-Unis. Je voudrais donner un carton vert à Sadio Mané pour tout ce qu'il a fait cette année et lui féliciter et lui dire bonne continuation. Et on lui souhaite bon vent au Bayern et carton rouge aussi à Liverpool qui a négligé pour Sadio Mané. Merci Radio Foot International et merci Rémi Ngono.
Voilà, merci à nos auditeurs qui nous gratifient chaque vendredi de leur carton. Ils sont sévères aussi, plein de bon sens, via WhatsApp, le numéro sur notre page Facebook. Rémi Ngono, jaune, rouge, vert, la
carton
couleur.
Vert.
Ah,
et
enfin des bons sentiments.
Je vais vous surprendre. C'est un Congolais de Brazzaville, de ma page Facebook Rémi Ngono, qui s'appelle exactement Rémi Ngono. Un Congolais.
Un usurpateur.
C'est incroyable. Un sosie. Je vous dis, un Congolais, il s'appelle Rémi Ngono.
Alors, c'est pas lui. C'est pas à lui que vous adressez votre carton.
Non, c'est lui qui adresse le carton.
Alors,
je crois qu'il s'appelait officiel.
Alors,
ah ouais.
Voilà. Alors bon, Rémi Ngono, Lucie du Rémi Ngono dans un exercice de schizophrénie.
Rémi Ngono sur la page Rémi Ngono avec Rémi Ngono qui adresse un carton vert à quelqu'un qui est originaire du pays de Rémi Ngono du Cameroun.
Quel narcissisme.
Aurélien Tchouaméni. Alors, Aurélien Tchouaméni, voilà quelqu'un à qui le président de la République a appelé que Vichy dans le plus beau club, le Qatar a appelé, Kylian Mbappé a appelé, et puis on lui a proposé 10 millions d'euros. On lui a dit, on peut aussi te construire même le château, on peut même aussi te donner une partie de la tour Eiffel, et ainsi de suite.
Non.
Il a dit, attendez, moi, j'ai toujours rêvé d'aller au niveau du Real Madrid. Et puis les autres lui ont dit, mais s'il y a beaucoup d'argent, on va te voir, on va faire ceci. Et puis, donc finalement, il a choisi, là, vous voyez, là, il a aligné là, c'est les ligues des champions. Et les autres, c'est les ligues de pognon. Comme dit un proverbe africain, un lit en or ne guérit pas la maladie.
Voilà, un carton vert tout en mesure de Rémi Ngono. Xavier Barré.
Bah, carton vert aussi, mais à des gens dont on parle beaucoup moins souvent, c'est l'équipe de France de Cécifoot et le Cécifoot en général. Ils sont arrivés, sont qualifiés pour la finale du championnat d'Europe contre la Turquie. Moi, ce que j'admire, c'est leur mental à ces garçons-là, notamment Ivan Wanji, que je connais assez bien, qui est dans cette équipe. L'an dernier, aux Jeux Olympiques, ils avaient une grosse désillusion. Ils avaient été éliminés dès la phase de poule, alors qu'ils s'étaient bien préparés. Et donc là, ils ont su rebondir, retrouver la motivation pour aller jusqu'en finale de 7 euros. Bravo à eux.
On rappelle rapidement comment on joue au foot quand on est malvoyant. Le ballon fait du bruit, on a des signaux sonores.
Exactement.
On stimule les autres sens.
Exactement. On utilise la voix, bien sûr, et la l'ouïe pour compenser l'absence de la vue. Et c'est assez spectaculaire et remarquable au niveau de l'état d'esprit qu'ils ont sur le terrain.
Le football est vraiment universel, comme les cartons de Radio Foot et du Café des Sports. Frédéric Suto, le vôtre.
Jaune, carton jaune pour la FIFA, avec cette inflation, toujours plus d'argent à distribuer. Là, on a appris que pour la prochaine Coupe du Monde 2022, ce sont 420 millions que la FIFA va distribuer aux 32 participants. Alors, suivant les résultats, hein, bien entendu, le pays qui va soulever la Coupe du Monde aura la part du gâteau. C'était 320 millions en Russie, donc plus 30%. Il y a de l'argent dans les caisses de la FIFA, mais est-ce qu'on ne ferait pas mieux de les utiliser entre deux Coupes du Monde sur des vrais projets, des projets de terrain, de développement du foot? Pour reprendre un peu ce que vous avez dit, Rémi, votre proverbe, là, une FIFA en or ne dérite pas la maladie, on va dire ça.
Le carton Radio Foot, le carton de Radio Foot, rapidement, il est vert pour un autre héros sénégalais, Omar Daf. Il poursuit le quart de finaliste du Mondial 2002, l'ancien latéral gauche. Il trace sa route d'entraîneur après Sochaux. Dijon, toujours en Ligue 2 la saison prochaine, c'est rare. Et grâce à Omar Daf, il y en a au moins un, de voir un entraîneur africain sur le banc d'un grand club et d'un grand championnat européen. Merci à toute l'équipe du Café des Sports. Radio Foot revient lundi. En attendant, excellente soirée.